watch you fall into arms without a word. And only the sighs of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. So misunderstood, so misunderstood. Said enough. I guess your sigh said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had enough. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster got woken up, and now I'm in his paw.
Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Almost impossible to do, reciting the makings of you.
One, two, three. Got me?
Ordonnances, dans le fond, sont passées comme une lettre à la poste. Emmanuel Macron a été élu, dans le fond, sur le ni droite ni gauche, mais la critique qui lui est faite aujourd'hui, c'est qu'il mène une politique de droite, et le remplacement de l'USF par l'ISI lui colle l'étiquette de président des riches. Est-ce que l'argument d'une plus grande efficacité économique, est-ce qu'elle est audible aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que les Français comprennent?
En tout cas, moi, je suis là pour qu'ils comprennent, et on se mobilise pour faire de la pédagogie. Moi, je crois pas que les Français, j'ai pas ce sentiment-là, en tout cas, dans mes contacts avec les électeurs, j'ai pas le sentiment que les Français rangent une action à droite ou à gauche. Si les Français étaient encore polarisés sur ce clivage-là, Emmanuel Macron serait pas président de la République, et je serais pas devant vous en train de vous parler en tant que député. Il y a une page qui a été tournée à ce niveau-là. La question, c'est de savoir à qui s'adresse ce budget 2018. Est-ce qu'on est dans les caricatures que certains véhiculent, ou est-ce qu'on est, et moi, c'est ce que je crois, dans un budget qui s'adresse s'adresse à tous les Français avec de logique. D'abord, le pouvoir d'achat. Il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français, à tous les Français. Et moi, j'entends pas les arguments qui disent que il faudrait, en tapant sur les riches, on ferait du bien aux pauvres. Je crois pas. Le problème dans ce pays, c'est pas qu'il y ait trop de riches, c'est qu'il y ait trop de pauvres. Et donc, il faut agir et il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est ce qu'on fait. Vous citiez la réforme de l'ISF. Combien elle coûte dans le budget? 3 milliards d'euros.
Non, mais c'est
la suppression de la taxe d'habitation pour tous les Français, enfin pour 80% des Français, c'est-à-dire les plus pauvres et les classes moyennes, c'est 10 milliards d'euros. C'est trois fois plus.
On met plus d'argent pour ceux qui ont le moins. Les zones extérieures de richesse au moment où on baisse les APL, et dans vos rangs, des jeunes députés comme vous, issus de la gauche, sont inquiétés de ce symbole, ont-ils dit, catastrophique.
Non, moi, là, je vais vous dire, vous avez rappelé que je viens de la gauche. Et absolument, la réforme de l'ISF, elle était annoncée pendant la campagne présidentielle, et je l'ai portée, mais sans aucun état d'âme, et je la soutiens. Parce que je crois vraiment qu'il faut dire que dans ce pays, on veut valoriser l'investissement en capital, dans l'économie réelle, plutôt que la rente. C'est le cœur de cette logique, de cette réforme. Et ce qu'on est en train de faire en transformant l'ISF sur un impôt sur la rente immobilière, c'est ça. C'est qu'on dit, vous pouvez avoir des actions, vous pouvez avoir de l'argent, investissez-le dans les entreprises, dans les TPE, dans les PME, pour faire vivre l'économie réelle. C'est le sens de cette réforme. Et la gauche n'a jamais été contre le travail et contre l'investissement.
Enfin, il y a eu cette critique sur le président des riches et ce budget pour les riches, et c'est pour ça d'ailleurs que la majorité dont vous faites partie s'attelle à corriger un peu le tir actuellement. Donc c'est que tout n'était pas parfait malgré l'exercice comptable que vous venez de faire. Ouais.
C'est pas une réaction à l'opinion publique. Vraiment. Enfin, moi je vous le dis, on travaille.
Non, mais
avec
je sais que le débat existait dans vos rangs également. C'est
pas que non, mais on travaille avec le gouvernement sur cette question. Moi, j'appelle pas ça les signes extérieurs de richesse, parce que quand on dit ça, on sait pas où on s'arrête. Le sujet, c'est quoi? C'est que il y a des biens de luxe. On a cité l'exemple des yachts, des Ferrari, des jets, etc., qui aujourd'hui sont taxés par l'ISF. Ces biens sont considérés comme mobiliers. À partir du moment où on dit qu'on transforme l'ISF en impôt sur la fortune immobilière et qu'on enlève le mobilier, forcément, avec les actions et l'investissement en capital dont je vous parlais, ces biens-là sortent aussi de l'ISF. Oui. Le sujet, c'est qu'ils continuent à être taxés de la même manière. Et donc, on augmente un certain nombre de taxes pour que le niveau de taxation sur ces biens reste le même. C'est pas tant un sujet de symbole et de volonté de répondre à des critiques. Ouais. C'est aussi un sujet d'effet d'aubaine. C'est que voilà, on veut pas que certains investissements immobiliers se transfèrent sur ce type de biens qui seraient plus taxés.
Alors, dans sa prochaine étude, le FMI pourrait préconiser une hausse d'impôts pour les plus riches. En tout cas, c'est ce qui a été laissé entendre par Christine Lagarde lorsqu'elle a fait un discours il y a quelques jours à Harvard. Elle ajoute qu'il faut se préoccuper des inégalités. Ça ne va pas tout à fait dans le sens de la décision du gouvernement. Alors on sait que c'est aussi visé Donald Trump qui veut bien sûr protéger les riches aux États-Unis. Mais est-ce que ça va dans le sens aujourd'hui de la philosophie d'Emmanuel Macron?
Je suis pas sûr que ça s'adresse directement à la France, qui a un niveau de taxation qui est quand même très élevé par rapport à ses voisins européens.
Oui, c'est vrai que c'est l'argument,
et qui a beaucoup augmenté ces dernières années. C'est la réalité. Ça, tous les Français le voient.
Le message a été entendu par les Français.
Les impôts ont trop augmenté ces dernières années, et donc il faut les baisser. C'est le sujet de la lutte contre les inégalités, il passe par l'impôt, il passe par les moyens financiers, mais pas seulement. Et ce gouvernement a une action de lutte contre les inégalités. Quand on fait ce qu'on a fait à l'école, avec un investissement majeur pour l'école primaire dans les territoires les plus difficiles, REP et REP+, en dédoublant les classes, en faisant des primes pour que les professeurs aillent y enseigner, etc.
Les professeurs qui sont dans la rue aujourd'hui.
On lutte contre les inégalités.
Les professeurs qui sont dans la rue aujourd'hui. Et donc il y a un message qui passe mal à tout le moins, si on vous suit.
Il y a un moment de la fonction publique, mais oui, il y a des professeurs qui manifestent. On est d'ailleurs, si on va sur ce sujet-là, on est bien en dessous de ce qui avait été annoncé par les syndicats.
Vous pensez que la mobilisation n'a pas pris aujourd'hui?
Non, je dis pas ça. Je dis voilà, il y a une manifestation de la fonction publique. C'est normal que tous les corps de la fonction publique soient présentés dans les manifestations. Ça ne veut pas dire que tous les fonctionnaires sont dans la rue. C'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est que on met le paquet sur la lutte contre les inégalités. Et l'exemple que je viens de donner, qui est celui de l'école, le montre. On agit pour des Français, notamment des enfants, qui n'ont pas le même capital financier, culturel, sociologique que les autres, et on leur donne plus de moyens et un meilleur taux d'encadrement à l'école pour qu'ils puissent s'émanciper. Ça, c'est une vraie politique de lutte contre les inégalités.
Alors, on va parler du Parti En Marche et également d'Emmanuel Macron, qui est un peu critiqué ces derniers temps. Alors, je le disais, Jean-Christophe Cambadélis sera notre invité, donc après vous, il a écrit un livre. Alors, lui n'est pas né de la dernière pluie, c'est un politicien qui sur le ring depuis des décennies. Et dans son livre, il écrit que le Parti En Marche est une start-up, ses bénévoles sont des helpers, ses députés suivent des séminaires de formation où ils disrupent disrupte, c'est le mot à la mode, disrupte les pratiques. Bref, il pense que votre nouveau parti fonctionne comme une entreprise, que c'est un parti entreprise. Certains disent c'est même une secte. Est-ce que vous avez ce sentiment-là quand on dit que En Marche fonctionne comme des start-upers?
Écoutez, je sais pas si ça fonctionne comme une start-up. En tout cas, ça nous a bien réussi. Puisque Emmanuel Macron a été élu président de la République, qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale,
ça
et
que
nous sommes
noté.
Le premier mouvement de France en termes d'adhésion.
Est-ce que vous sentez
ce que je sens, c'est qu'effectivement, il y a une vraie rénovation des mouvements politiques à travers En Marche. Je le vois, puisque j'étais dans un autre parti politique auparavant. Et plus que la question de start-up, d'entreprise, moi, ce qui me frappe, c'est surtout l'ouverture sur la société française, l'ouverture sur les Français. Quand on a fait cette grande marche où on a envoyé des militants à la rencontre des Français, frapper à leur porte, écouter ce qu'ils avaient à dire, qu'on a fait remonter leurs sentiments et qu'on a construit le programme à partir de ça, c'est tout à fait nouveau. Quand on fait des comités locaux décentralisés dans tous les quartiers de France avec la possibilité de venir, de faire des propositions qui remontent ensuite et qui permettent de nourrir l'action de la majorité, c'est tout à fait nouveau. Et ce qu'on est en train de faire avec la mise en place des instances nationales du mouvement, c'est aussi faire entrer la société française, la société civile dans les mouvements politiques. On a 25% dans chacune des instances nationales du mouvement, donc le Conseil national, le Parlement du mouvement et l'instance exécutive, on aura 25% des membres qui seront tirés au sort parmi les adhérents. On sort d'une logique où il fallait avoir des galons de militantisme pendant des années, avoir connu une dizaine de congrès pour pouvoir décider dans les mouvements politiques. Ça change totalement. Ouais. Et c'est un vrai renouvellement.
Donc le nouveau monde, vous qualifieriez comment par rapport à ce qu'on aime nous dire, qu'il y a un ancien monde et un nouveau?
Pas d'anglicisme.
Non, je dirais pas. Je suis pas dans cette idée d'ancien monde, nouveau monde, mais c'est l'ouverture.
C'est ce qu'on nous vend, enfin.
C'est ouvrir, c'est dépasser les frontières. Dépasser les frontières partisanes qu'on connaissait jusqu'à maintenant, les vieux clivages, dépasser les frontières entre politique, société civile, où finalement il y a énormément de Français qui avaient le sentiment de ne pas être représentés par les partis politiques et de même pas pouvoir contribuer aux idées et aux projets qui étaient portés. On dépasse toutes ces frontières-là. Et je pense que c'est passionnant à vivre. Et je pense que ça va chambouler la vie politique française
C'est encore un chantier en construction. Hein. Vous avez votre congrès le 18 novembre
prochain.
C'est
work in progress, pour avoir un anglicisme.
Vous avez tendu la perche, hein. Je le sentais venir. Congrès le 18 novembre prochain. Votre parti n'est toujours pas incarné vraiment là. Il y a trois personnes dont on a oublié malheureusement les noms. Qui pour représenter votre parti, le vrai patron du parti, ça reste Emmanuel Macron, non?
On est dans un moment d'intérim, vous l'avez dit, il y a une direction collégiale de trois personnes. Moi, je souhaite, et ça n'est pas encore arbitré, donc c'est un souhait que j'émets à titre individuel, je souhaite que le parti soit représenté par une personne. Je pense que l'incarnation est quand même importante. Ouais. Et si on veut mener une équipe, il faut qu'il y ait une personne qui soit en capacité d'emmener les militants.
Alors quel profil un marcheur, nécessairement, de la première heure?
J'attends de voir les candidatures qui seront
proposées. Notre ami Benjamin Griveaux.
Moi, je pense que c'est important que ce soit quelqu'un qui a participé à la campagne présidentielle, qui a participé à la fondation d'En Marche, qui n'est pas un mouvement si vieux que ça. Voilà, je pense que c'est important d'avoir une personnalité qui a connu toutes les étapes de la création de ce mouvement et qui est en capacité de l'emmener plus loin.
Il ne prendra pas le titre de président du parti, ça sera un coordinateur. Le président, ça reste Emmanuel Macron.
Non, il n'est plus le président de la République, il est président de tous les Français, il n'est plus
bien.
Président
d'En
Marche. Non, je crois que ça sera un délégué national, général.
Un délégué général, voilà. Pourquoi pas un président d'En Marche
Vous n'avez pas de président, on n'est pas obligé d'avoir un président
un délégué, politique. C'est...
Ouais. Ouais, c'est ça, l'essentiel, c'est qu'il y ait un nom, un visage et quelqu'un qui remette de l'huile dans la machine, parce que on sort d'une campagne présidentielle et de campagne législative, forcément il y a une retombée et il y a tellement de choses à faire qu'il faut repartir. Moi, je suis pour que
Ce qui est un peu reproché à Emmanuel Macron ces derniers temps, c'est cette tentation d'un pouvoir solitaire. Est-ce qu'il montre suffisamment, c'est ce que veut sans doute dire Véronique, c'est que il ne montre pas qu'il y a une autre génération que lui au pouvoir. On voit les ministres sont plus des experts que des politiques. Donc c'est vrai que clairement Emmanuel Macron a formé une génération d'experts plutôt que d'avoir des équilibres politiques. Est-ce que ça ne manque pas quand même de faire monter cette jeune génération? Alors on vous voit, on vous invite, mais on n'entend pas beaucoup les ministres. On a l'impression qu'il y a un peu une confiscation du pouvoir.
Ah, je crois pas du tout. Moi, j'entends votre question. Moi, je pense que le pays avait besoin d'un gouvernement dans lequel des ministres de la société civile qui connaissaient leur domaine pour y avoir travaillé arrivaient. Mmh. Je pense que ça veut pas dire qu'il faut que des ministres de la société civile. Et d'ailleurs, il y a des personnalités politiques que les Français connaissaient qui sont membres de ce gouvernement. Vous savez, le mouvement En Marche et l'élection d'Emmanuel Macron, elle est historique parce qu'il n'est pas d'un parti traditionnel. Elle s'est construite, c'est vrai, d'abord autour de sa personne avant de se construire autour de son programme. Et forcément, quand vous arrivez après, forcément, voilà, il y a un moment où il faut que tout ça s'organise et que des personnalités émergent parce que les Français ont élu Emmanuel Macron et parce qu'il y a un renouvellement majeur à la fois au gouvernement et à l'Assemblée nationale et que forcément les personnalités qui en sont membres sont moins connues. Je pense que ça se fait petit à petit. Et moi je pense que les ministres justement gagnent leur légitimité, y compris politique et médiatique, de par leur connaissance des dossiers.
Ils ont pris leur temps pour aller dans les médias.
On l'a quand même beaucoup vu sur les ordonnances travail. Voilà, elle a été DRH d'une très grande entreprise. Elle connaît très bien ce sujet-là. Elle a très bien mené les concertations et très bien construit ses ordonnances. Elle a émergé grâce à ça. Et je pense que ça c'est assez nouveau aussi.
Le Premier ministre Édouard Philippe devrait être normalement exclu demain de son parti, les Républicains, un parti de droite. Pour autant, il ne souhaite pas rejoindre En Marche. Est-ce que ça vous chagrine ou pas? Contrairement à Bruno Le Maire qui lui a rejoint votre parti. Avoir un Premier ministre qui n'est pas de votre parti, qui sera peut-être demain d'aucun parti, est-ce que c'est pas un souci?
Non, moi ça me chagrine pas. Vous savez, la victoire d'Emmanuel Macron, elle s'est construite parce qu'il y a eu un dépassement des frontières, comme je disais tout à l'heure, et un rassemblement très large de personnes qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Il s'est poursuivi après l'élection présidentielle et Édouard Philippe a rejoint Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il est chef de la majorité. Et dans la majorité, vous n'avez pas uniquement le mouvement En Marche, puisque le MoDem en fait aussi partie. Ça ne me dérange pas qu'il n'adhère pas aujourd'hui.
Avoir un Premier ministre qui souhaite rester de droite à la tête dans
l'essentiel, c'est que
votre mouvement, ça vous va parfaitement.
L'essentiel, c'est qu'il s'engage pour la politique du président de la République et pour les engagements qui ont été pris par le président de la République pendant la campagne. Vous savez,
ça l'affaiblit pas justement de ne plus représenter, d'être partie tenante d'aucun parti.
Il est Premier ministre, donc il est fort par définition et il agit. Ouais. Mais vous savez, on ne dit pas qu'on a effacé la droite et la gauche. Il y a des gens qui viennent de la gauche, des gens qui viennent de la droite, à la fois dans le gouvernement et à l'Assemblée nationale. Le sujet, c'est qu'on est à un moment de notre histoire où on peut, avec des gens de gauche et avec des gens de droite, se retrousser les manches et travailler ensemble. C'est le sujet d'aujourd'hui.
La seule opposition audible, en fond, aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron, vous l'avez dit, le paysage est dévasté, tous les partis de gouvernement ont été écrabouillés, et dans le fond, celui qui relève la tête aujourd'hui, c'est la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. C'est une opposition qui, pour le coup, s'oppose vraiment, un tête-à-tête Macron-Mélenchon, finalement, il ne pouvait pas rêver mieux, Emmanuel Macron.
Moi, je considère, pour le bien de la République et de la démocratie, moi, je considère qu'il faut qu'il y ait une pluralité d'opposition qui s'exprime et une pluralité d'alternatives. Et
donc, vous souhaiteriez que les Républicains ou même le PS se réveillent un peu?
Moi, je souhaite que la démocratie, elle soit forte, elle soit vive et elle soit plurielle. Et en tout cas, je souhaite pas que la seule alternative soit la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il propose rien. Parce qu'ils sont dans une espèce de pensée totalisante, négative. Ils se nourrissent de la désespérance dans ce pays. On voit que Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il en parle en permanence, n'a toujours pas accepté.
C'est une opposition caricaturale à vos yeux?
Oui, c'est pavlovien, c'est dogmatique, c'est caricatural. Et c'est plein de faux-semblants. Je veux dire, ils nous donnent des leçons en permanence sur la démocratie. Ils n'ont pas été capables de dénoncer ce qui se passait au Venezuela et les dérives dictatoriales. Ils nous donnent des leçons en matière de solidarité. Leur porte-parole, on nous apprend qu'elle ne paye pas ses cotisations. Il nous donne des leçons en termes de République et de soutien aux victimes du terrorisme. La suppléante d'un député de la France insoumise soutient une femme qui appelle martyr le responsable de l'attaque de Marseille. Il y a un moment, il faut jouer carte sur table, il faut être franc jeu. Il faut proposer une alternative pour le pays et il faut arrêter de mentir aux Français.
Le PS aujourd'hui, d'après vous, il est malade, il est mourant, il est mal portant ou quelle suite vous lui donnez? Vous espérez.
En deux mots,
c'est compliqué. Moi, je suis ni Madame Irma, ni un commentateur. Je pense qu'il est en refondation. Et moi, je lui souhaite de réussir à définir une ligne.
On va terminer sur cette première partie de Mardi Politique. Merci, Gabriel Attal, d'être passé par RFI, par France 24. On accueille notre deuxième invité, justement, Jean-Christophe Cambadélis, pour parler de la refondation du PS, juste après le flash d'info.
RFI. et France 24 présente
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec notre deuxième invité, Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous publiez Chronique d'une débâcle 2012-2017 aux éditions L'Archipel. Alors vous n'êtes plus premier secrétaire du Parti Socialiste. Après cette débâcle, hein, qui n'est pas la première au PS, vous avez passé la main à une direction collégiale, autant dire à une armée mexicaine. Ce livre est intéressant à beaucoup d'égards. D'abord, il est bien écrit pour un livre politique qui d'habitude nous tombe des mains. Vous êtes à la fois lucide, très lucide, mais il subsiste chez vous le parler, le phraser, la pensée non pas complexe, comme dirait un certain Emmanuel Macron, mais la pensée compliquée des socialistes. Bon, ça c'est pour la petite critique. Mais avec vous, nous allons parler donc de l'actualité, mais arrêtons-nous un petit instant sur ce livre, puisque dans le fond, vous expliquez, vous essayez de savoir, comme après un meurtre, quels sont les coupables, ou quels sont les suspects. Vous écrivez, vous êtes sonné encore, vous écrivez comment ce parti, le PS, qui fut si puissant, si dominateur, implanté dans toute la France, a pu subir ce sort. Alors, les suspects, qui sont-ils? Eh bien, il y a François Hollande, il y a peut-être le PS lui-même, il y a Emmanuel Macron, il y a la France insoumise. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que la débâcle que vous décrivez là, 2012-2017, elle n'est pas plus ancienne et qu'elle ne vient pas, dans le fond, d'un moment où les autres, comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, qui était dans la troisième voie, la France, les Français n'ont pas muté, Lionel Jospin résistait à cette espèce de social-démocratie.
Bah, ils n'ont pas muté, mais ceux qui ont muté n'ont pas fait mieux que nous, puisque le SPD n'arrive pas, depuis Schröder, à revenir en responsabilité. Pourquoi ?
C'est vrai, mais le pays marche.
Mais vous mettez l'accent sur quelque chose qui me semble très très important, c'est la grande crise des partis progressistes à l'échelle mondiale, qui sont partagés entre une aile radicale et une aile réformiste, social-libérale, peu importe comment on l'appelle. On l'a vu entre Bernie Sanders et Hillary Clinton, on l'a vu avec Corbyn et les néo-bléristes en Angleterre, on l'a vu avec D'Alema et Renzi en Italie, on le voit dans le PSOE avec le dernier congrès qui s'est tenu, et on l'a vu d'une certaine manière entre Sigmar Gabriel et Martin Schulz. L'un était pour une alliance au centre, l'autre pour une alliance, sans le dire totalement, avec les Verts et Die Linke. Donc il y a bien, après il y a les responsabilités propres du Parti Socialiste et des hommes et des femmes que vous avez cités, mais on est dans une séquence où, face à la mondialisation, le grand courant social-démocrate, le grand courant progressiste n'arrive plus à développer des idées qui permettent d'avoir une majorité.
Mais vous-même, vous reconnaissez des erreurs dans la gestion de ce quinquennat. Vous étiez à la tête du PS. Est-ce qu'à un moment, notamment quand Valls est devenu Premier ministre et qu'il y a eu ce premier virage du quinquennat, vous n'avez pas pris, vous, le vôtre vers la social-démocratie de manière complètement affirmée? Est-ce que là, il n'y a pas eu un ratage? C'était l'occasion de le faire.
Nous l'avons fait, puisque dès que je suis arrivé en responsabilité, nous avons fait les états généraux des socialistes, mais ça n'a pas été, ça n'a pas imprimé, comme disent les jeunes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, sous la Ve République, on ne voit que l'exécutif. Nous avons fait des états généraux, nous avons changé notre logiciel, ça a donné lieu à une bataille acharnée à l'intérieur du Parti Socialiste, et nous sommes des sociaux, sociales, écologistes. Donc on a voulu faire entrer l'écologie dans notre logiciel qui n'était pas celui-là auparavant. Donc nous avons fait des évolutions, nous avons fait plein de textes.
Vous n'êtes pas allé assez loin ?
On a été assez loin, mais on n'a pas su le faire savoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas su démontrer que nous rentrions dans une nouvelle phase. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous avons fait, tout n'était pas formidable, mais tout ce que nous avons fait a été obscurci par les querelles à l'intérieur du Parti Socialiste, entre le groupe parlementaire, une partie du groupe parlementaire et le président de la République et le Premier ministre.
Pour filer la métaphore policière de Roselyne, c'était petit meurtre entre amis, hein, ça pourrait être le titre de votre livre.
J'ai peur que vous me disiez les dix petits nègres, mais oui. Oui, c'est un peu ça.
Alors, vous dites quelque chose d'étonnant quand même. Quand, en 2011, Dominique Strauss-Kahn est obligé de lâcher l'affaire pour, justement, à cause du Sofitel, tous les regards se tournent vers François Hollande. Et vous vous dites tous, il n'est pas prêt.
Oui, parce que si on se replace dans l'époque, on ne va pas non plus faire des procès comme ça, mais si on se replace dans l'époque, l'anticyclone strauss-kahnien faisait qu'on se demandait s'il y allait avoir deux tours. Quoi. C'est tellement tout le monde allait dans les sondages vers lui, etc. Donc même ceux qui le contestaient à l'intérieur du Parti Socialiste et qui proposaient une primaire, comme François Hollande, se disaient « je vais faire du rapport de force et puis je serai Premier ministre ». Il dit pas ça aujourd'hui. Il dit qu'il aurait battu Dominique Strauss-Kahn. Je le crois pas. Mais bon.
Au mieux, c'est ce qu'il espérait.
Il espérait être son Premier ministre. Donc, vous préparez en disant, bon, bah, il va fixer l'orientation et puis moi, je vais me le lover dans ce processus. Et d'un seul coup, vous êtes face à l'histoire. Donc, je file aussi la métaphore, je dirais, c'est un Carl Lewis qui n'a pas sauté en hauteur, en longueur, qui n'a pas d'élan. Parce qu'il n'a pas eu le temps de se préparer, dans le sens où on réfléchit au pays, on trouve les formules, etc.
Ce qu'a fait Macron.
Ce qu'a fait Macron. Lui, on peut critiquer Macron, mais lui, il a bien réfléchi à l'équation qu'il voulait proposer au pays. Hollande avait bien réfléchi sa campagne de primaire, là, vis-à-vis de Strauss-Kahn, mais n'avait pas totalement en tête. Et donc, il est devenu président au fur et à mesure. Ouais. Mais il y a eu du temps perdu. Évidemment.
Il y a eu des erreurs. Hein.
J'indique aussi, c'est que d'emblée, comme il est obligé de faire une alliance avec Montebourg, le code génétique du quinquennat, c'est la fronde au cœur du dispositif. Donc il devient tout de suite ministre de l'économie, Arnaud. Et
là, les soucis commencent pour vous.
Ouais. Mais est-ce que, alors, si on remonte un peu plus loin, c'est-à-dire vers la fin du quinquennat, qui est assez dramatique pour François Hollande, vous dites, d'ailleurs, vous l'expliquez, vous dites qu'il acceptait tout, même l'improbable, il l'acceptait sur les propositions des journalistes. On a vu quelle a été la bombe à retardement de un président ne devrait pas dire ça. Mais est-ce que vous ne l'avez pas mené à l'abattoir, en quelque sorte, en gardant les primaires? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les primaires, peut-être que... est-ce que vous auriez pu agir là-dessus, vous asseoir sur le système des primaires?
Alors, les primaires, on ne pouvait pas s'asseoir dessus, puisque c'était les statuts, mais on aurait pu envisager...
Ouais. Non, mais comment on se sera arrangé, alors?
On aurait pu s'arranger, mais à l'époque... Encore une fois, replaçons-nous à l'époque, parce qu'on ne peut pas voir un film simplement en regardant la fin. Il faut savoir aussi ce qui s'est passé au début. À l'époque, Macron n'était pas sorti du gouvernement.
Oui.
Et donc, avec le président de la République, parce que je n'ai pas décidé ça tout seul, d'ailleurs les papiers de l'époque le démontrent, nous sommes dit que cette primaire permettait au président de la République... de se refaire une santé, de se remettre en situation,
de se légitimer.
Et à partir du moment où Macron sort du gouvernement, l'électorat de la gauche de gouvernement est cassé en deux. Et vous pensez bien qu'une partie de l'électorat qui suit Macron parce que plus dynamique, parce que plus ouvert, parce que sans complexe sur sa ligne sociale libérale pour après devenir complètement libéral, mais ça c'est autre chose, n'allait pas voter Hollande dans une primaire. Donc dans les sondages, on s'est effondré.
Vous avez proposé aussi d'ailleurs à Emmanuel Macron de faire un grand parti. Hein, c'est ce qu'il a refusé, puisque dans le fond, il vous a mangé la laine sur le dos. Alors vous dites quelque chose d'intéressant, la description d'Emmanuel Macron. Vous écrivez « Quelque chose me frappa en l'observant. Ainsi, dans cet instant d'extrême séduction, ses mains, son corps, son sourire, tout était en mouvement. Mais étrangement, le regard bleu était dur, comme absent de la pièce. À ce moment-là, je me fis la réflexion suivante. Emmanuel Macron possède le déhanché de Michael Jackson et le regard de Margaret Thatcher. Ça fait penser à la petite phrase de Mitterrand quand il parlait justement de Margaret Thatcher en disant « Elle a les yeux de Caligula et la bouche de Marilyn ».
Oui, alors... c'est un
vous l'avez piqué un peu à Mitterrand,
c'est un peu à Mitterrand, bah, il y a de...
c'est de grands auteurs. C'est un empereur.
mais c'est vrai, parce que ouais. François Hollande me dit, tu n'as qu'à le rencontrer, parce qu'il avait encore mis le bazar dans La Rochelle à ce moment-là, en se réclamant de la fin des 35 heures, dans une réunion, d'ailleurs, chez les amis de Manuel Valls.
Et le bazar, vous avez dit. Ouais.
Comment ?
Le bazar,
oui. Et donc, je vais le voir. Et je ne le connais pas. Je connais comme ça de loin, pas directement. Et il me reçoit aimable, brillant, sympathique, caressant, me tirant par le bras, en faisant des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc bon, vous êtes content de discuter avec quelqu'un qui est pétillant et intelligent. Mais d'un seul coup, derrière cette manière d'être, j'ai perçu un regard extrêmement dur, et à tel point que ça m'a un peu rendu perplexe. Et dans la suite de la discussion, à chaque fois que je lui faisais une proposition pour qu'il aide François Hollande en élargissant la base de la majorité présidentielle, en prenant le Parti radical, ça lui a pas plu, oui. Ou en créant un réseau à l'extérieur de notre ensemble politique, il prenait ça pour lui et ne parlait jamais de François Hollande. Ce qui fait que quand j'ai été voir...
Vous avez compris, vous, tout de suite.
Quand j'ai été voir François Hollande quelques jours plus tard, j'ai dit, dis donc, ton gars, là, il pense à lui, mais il pense pas à toi.
Et donc, et Hollande ne vous a pas cru?
Non, Hollande. Et puis moi, honnêtement, je vais pas non plus reconstruire l'histoire. J'ai trouvé qu'il était auto-centré, mais je l'avais pas encore perçu qu'il s'engageait dans...
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette dureté que vous dites avoir vue dans le regard de Macron s'illustre dans sa politique de réforme à l'heure où montent les mécontentements?
Oui, je crois que c'est un homme qui est dans la toute-puissance. Hein. Il a les moyens de cette toute-puissance, vu son intelligence, la manière dont il réussit dans beaucoup de domaines. Et il ne connaît pas la marche arrière.
Ou alors il rectifie. C'est grave pour un politique, ouais. Ça, de ne pas connaître la marche arrière.
Un peu, vous savez, dans ce pays qui est fragmenté...
Vous voulez dire qu'il ne rectifie pas ses erreurs vite?
Il va jusqu'au bout. Il est dans la confrontation. Il est dans la confrontation. Parce que sa conception du pouvoir est une conception monarchique dans le sens républicain du terme, c'est-à-dire il pense qu'il faut la verticalité, que les Français sont des enfants, peut-être pas obligatoirement feignants, mais enfin c'est des enfants qui veulent pas ranger leur chambre, et donc il faut de l'autorité pour qu'ils le fassent pour leur bien. Et donc il a une lecture des institutions, mais c'est pas maintenant, il l'a pensé avant. Hein. Mm-hmm. Il a une lecture des institutions qui est le retour à 1962 et le général de Gaulle. Moi, je pense que c'est une erreur considérable dans un moment de fragmentation, au contraire, de politisation de l'ensemble des Français qui sont au courant de tout. Moi, ça me sidère quand je discute avec eux. Pour un peu, je leur dirais quel est ton numéro de carte au Parti Socialiste, parce qu'ils sont au courant du moindre détail. Voilà, ils regardent tout sur les réseaux sociaux, ils regardent la télé, ils sont au courant, ils adorent ça. Et on peut pas les coacher ou les diriger comme le général de Gaulle diriger la France avec l'ORTF et le noir et blanc et les DS de l'époque. C'est pas possible.
En rajoutant dans le vocabulaire, est-ce que c'est un élément de tension supplémentaire, les feignants, le fameux bordel, maintenant, on le sait, des gloutons?
Oui, mais alors d'abord, ça dénote une personnalité, parce que je pense que ce n'est pas la même chose de dire feignant devant une...
Il parlait des politiques, Oui. Faut être honnête.
Devant un, je veux bien, mais même pour ça, devant une assemblée, donc vous assumez ce que vous dites, et de dire ils foutent le bordel, alors qu'il y a une caméra avec une perche de côté. Donc il y a des mots volés et des mots assumés. Mais au fond, ça démontre quand même un univers culturel ou un univers mental, parce que ces formules-là, adressées aux politiques, si c'est bien les politiques, ou adressées à des grévistes, on les entend plus à droite qu'à gauche.
Jean-Christophe Cambadélis, vous dites dans votre livre, vous le dites pas comme ça, mais vous dites qu'il y a quand même eu une paresse à penser, idéologiquement. Vous dites on a quand même fait beaucoup de stratégies, et vous le premier, parce que vous êtes l'homme des... C'est pas méchant ce que je dis, mais un peu des combinations. Vous êtes très politique, vous êtes très stratégique, etc. Donc il y a eu à un moment quand même un vide idéologique qui s'est...
Oui, qui s'explique d'ailleurs. Il s'explique pourquoi ? Parce que nous avons vécu dans le confort du bipartisme. C'était assez simple.
C'était acquis.
c'était acquis. Puisque la droite arrivant au pouvoir, bah, elle commençait à gouverner, évidemment, son orientation produisait des effets, et donc les élections suivantes, généralement intermédiaires, nous permettaient de l'emporter, c'est ce qui s'est passé, nous avons gagné toutes les élections intermédiaires, et puis eux, de la même chose, faisaient la même chose de l'autre côté. Donc il y avait une espèce de balancier, il ne s'agissait pas de penser, il s'agissait de synthétiser, de faire en sorte que toutes les rivières de la gauche se jette un moment dans le fleuve socialiste. Et donc, on était dans cette situation. Et donc, on a commencé à penser. Il y a eu beaucoup de textes, mais ça n'a pas été une intelligence collective et des signes forts présentés à l'ensemble de la France.
Le PS tiendra son congrès en mars prochain. Quelles sont les chances, selon vous, du succès de sa rénovation? Alors qu'on voit un parti toujours coincé entre les deux nouveaux mondes, hein, la France insoumise d'un côté à gauche et puis En Marche sans doute plus à droite. Comment vous voyez les possibilités de rénovation alors que vous êtes toujours dans le même carcan qui, entre autres, vous a tué?
Alors, si vous me permettez, je suggérerais aux socialistes de ne pas réfléchir de
pas
cette
trop.
Manière.
D'abord les idées, d'abord et après les idées, les hommes.
D'abord ouais. les idées, parce ouais. que. Pour continuer ouais. mon raisonnement sur le bipartisme, aujourd'hui on est dans le multipartisme. Et si vous vous vassalisez vis-à-vis de Macron ou vis-à-vis de Mélenchon, eh bien vous n'êtes plus une force politique centrale. Il faut avant définir le nouveau projet, on dirait aujourd'hui dans le monde moderne de Macron, le nouveau logiciel socialistes. Qu'est-ce que nous proposons
au pays ? Mais c'est quoi être socialiste aujourd'hui
Le socialisme aujourd'hui, c'est trois choses, hein, je crois. C'est une forte décentralisation, une révolution décentralisatrice. C'est la lutte pour l'égalité et la justice qui doit continuer. Et donc on ne peut pas avoir des mesures comme cela simplement pour l'entreprise. Il faut aussi avoir le combat pour l'égalité. Et c'est l'écologie. C'est trois éléments, c'est trois fondations. Et je pense, pour le second, la décentralisation, que c'est un point fort des socialistes par rapport à l'ensemble de ce que j'appelle le club des Jacobins, Marine Le Pen, Wauquiez, Macron, Mélenchon, qui, chacun dans leur registre, pensent centralisation de l'État. Et donc, les socialistes, eux, de tout temps, Gaston Defferre, Pierre Mauroy, etc., ont pensé la décentralisation. Et la décentralisation, c'est à la fois rapprocher les citoyens du lieu de pouvoir et en même temps être au plus près pour régler les problèmes économiques et sociaux. Et je pense que là, il y a une nouvelle France. Alors, dans le moment présent, avec le séparatisme catalan, évidemment, on va me critiquer, mais il y a une nouvelle France qui est plus décentralisée que cette France hyper centralisée où tout se décide après.
Jean-Christophe Cambadélis, pour comprendre bien le Parti Socialiste et l'histoire de ce parti que vous connaissez merveilleusement bien, c'est décrit vraiment dans le livre de Bergugnou et Grimbert, qui sont les historiens du PS dans l'ambition et le remords, où dans le fond ils expliquent l'idée centrale, enfin une des idées centrales, c'est de dire que le Parti Socialiste a toujours du remords, a été tiraillé entre cette ambition de gouverner et le remords de gouverner. Est-ce que cette question a été vraiment tranchée? Parce que quand on écoute les socialistes, il y en a toujours qui disent il faut être plus à gauche, mais ils nous expliquent pas ce que ça veut dire être plus à gauche. Est-ce qu'il faut trancher cette question idéologique une bonne fois pour toutes?
C'est une question de méthode. C'est-à-dire que les socialistes parlent de synthèse en leur sein, mais sont pas capables de faire le compromis dans la société. Vous pouvez avoir une pensée assez radicale, estimer que le monde doit être beaucoup plus juste. Mais le problème qui est posé, c'est le chemin pour y arriver. Or, si vous ne pensez pas le chemin, évidemment, il y a ceux qui disent, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on gère les problèmes de la nation. Et en fin de compte, on passe d'une culture de gouvernement à une bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est de bien gouverner et non pas de transformer la société. Et puis il y a les autres qui disent il faut tout de suite, en 90 jours, disait-on à l'époque de François Mitterrand, mais là, en quelques semaines, en un budget, régler toutes les inégalités de la Terre. Et ils ne pensent pas non plus qu'il n'y a pas que, il faut trouver un chemin pour pouvoir y arriver. Donc la question, c'est quelle méthode, quelle perspective, à quel rythme on transforme la société.
J'ai lu en deux mots que vous aviez fait une chute à l'âge de 7 ans, de je ne sais pas combien d'étages, à Montréal. Vous en êtes sorti sans aucune égratignure, donc vous êtes un homme résilient. Est-ce que le Parti Socialiste sera résilient, comme vous?
Ben, je l'espère.
Est-ce qu'il a plusieurs vies comme les chats?
Oui, absolument.
Et ben voilà, nous avons filé la métaphore tout au long de cette émission, c'est formidable. Merci Jean-Christophe Cambadélis, la Merci chronique d'une débâcle 2012-2017 aux éditions L'Archipel. Bon bouquin, en tout cas ça se lit comme un peu une enquête journalistique, Véronique, je ne sais pas si vous avez trouvé aussi.
Absolument.
C'est pas mal. Bon, ouais. On se fait de la pub.
J'ai même trouvé le second titre. Alors, écoutez.